Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio Voix de Jeunes, bonjour. Zulf Lawan, sabah al-khair alikoum. Heureux de vous rencontrer cette fois-ci dans le cadre d'une semaine que nous avons lancée, une semaine de sensibilisation contre le racisme, pour la tolérance et l'intégration et la dignité des migrants. Cette semaine, on l'a organisée à l'occasion de la Journée internationale des migrants qui coïncide avec 18 décembre de chaque année. Donc, on a prévu des émissions, des entretiens, des tables rondes, des reportages au cours de cette semaine du 17 jusqu'au 23. Pour cette émission, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une journaliste qui a beaucoup travaillé sur la question des migrants en Algérie. C'est mademoiselle Leïla Beratou, qui est journaliste et correspondante à RFI. Bonjour Leïla, d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes l'une des rares journalistes algériens, malheureusement, mais on le constate, qui suit vraiment cette question très sensible d'actualité nationale, régionale, voire internationale, notamment ici en Algérie. Donc la première question que je peux vous poser, une idée générale sur le flux migratoire en Algérie, est-ce qu'il y a la baisse, est-ce qu'il y a l'augmentation vous avez des chiffres à donner concernant le flux migratoire?
Les associations qui travaillent en Algérie avec les migrants font une estimation d'environ 100 000 migrants subsahariens en Algérie. Il n'y a pas d'estimation pour les migrants qui viennent du Moyen-Orient, même si on sait qu'il y en a, notamment sur des gens qui viennent du Yémen, de Palestine ou de Syrie, mais parce que certains d'entre eux ont pu effectivement avoir une situation régularisée par les autorités. Pour ce qui concerne les subsahariens, voilà, les associations parlent d'environ 100 000. L'Algérie est soit une étape sur la route vers l'Europe, soit une destination. Et comme c'est une étape sur la route de l'Europe, les chiffres et les dynamiques changent en fonction de ce qui se passe dans les pays voisins. On pensait Enfin, jusqu'à ces derniers mois, il y avait une accélération du nombre d'arrivées, mais aussi une accélération du nombre de départs vers l'Europe, avec ce qui est en train de se passer en Libye, à savoir des rapatriements volontaires de beaucoup de migrants, beaucoup de présence, le renforcement des capacités des forces armées libyennes pour arrêter les flux migratoires, et notamment via les financements de l'Europe. Il se peut que les choses changent, il se peut qu'en fait les gens continuent d'arriver, mais ne quittent plus l'Algérie.
Parce que c'est très difficile de quitter le territoire.
Mais c'est pas tellement que c'est difficile de quitter le territoire algérien, mais c'est qu'on peut plus quitter la Libye pour aller en Europe. Donc, à mon avis, mais il faut attendre quelques mois pour voir ce qui va se passer. À mon avis, le nombre de migrants qui vont être présents sur le territoire algérien pourrait augmenter, à moins que les départs se décalent vers le Maroc et l'Espagne. Mais pour l'instant, ça s'est pas vraiment fait.
Justement, ça veut dire, si on parle de l'Algérie, c'est un pays d'origine de l'immigration, mais cette fois-ci, il est tridimensionnel, donc il n'est pas uniquement d'origine, il est c'est un pays de transit, mais aussi il est devenu un pays de destination. Donc des gens, des migrants, ils viennent pour s'installer, travailler ici en Algérie.
Oui, les conflits en Libye et en Tunisie, à partir de 2011, qui étaient des pays qui accueillaient aussi des migrants subsahariens, qui étaient des pays qui fournissaient du travail à ces pays-là. Les conflits ont fait qu'il y a eu beaucoup moins de travail pour les migrants en Libye et en Tunisie. Et du coup, en Algérie, comme ça correspondait à une période où on construisait beaucoup, on essayait de développer les infrastructures.
Notamment aux travaux bâtiments.
Voilà, il y avait du travail pour ces migrants en Algérie. Donc ils sont ceux qui allaient en Libye et qui travaillaient comme manœuvre dans des chantiers en Libye jusqu'en 2010. Ensuite, ils sont plus revenus vers l'Algérie. Il y a un certain nombre de migrants qui sont aujourd'hui en Algérie qui ont été en Libye jusqu'en 2009-2010.
D'accord, donc c'est donc les conditions de travail, parce que généralement elles sont dans le sud, mais même peu c'est dans le nord. Et est-ce que vous avez une idée, est-ce qu'ils sont déclarés à l'assurance?
Alors, la loi étant ce qu'elle est, un étranger ne peut pas être déclaré. Oui. Donc, toutes ces personnes qui sont de différentes nationalités, de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, travaillent sans être déclarées. Principalement pour les hommes dans les chantiers et les exploitations agricoles. Et pour les femmes, elles travaillent chez des particuliers, donc notamment femmes de ménage, où elles travaillent dans des hammams, ou parfois elles travaillent au sein des communautés migrantes, Elles font à manger, elles coiffent d'autres femmes migrantes. Mais tout ce travail-là est précaire, sans protection juridique aucune, puisqu'évidemment, ils ont pas, selon la loi, ils n'ont pas le droit.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, vous avez visité quand même beaucoup de lieux de résidence des migrants. Les conditions de séjour, comment ça veut dire? Est-ce qu'il y a un minimum vraiment de conditions?
Quand vous êtes un migrant en Algérie, votre condition de vie dépend de votre réseau communautaire. Soit vous faites partie, quand vous êtes parti de votre pays, vous connaissiez des gens qui connaissent une filière, qui connaissent des gens qui sont déjà installés. Et à ce moment-là, vous avez un lieu où atterrir quand vous arrivez, un endroit où commencer à chercher du travail, des conseils. En fait, tout se fait par réseau. Mais comme n'importe quel départ à l'étranger, quand on part faire des études à l'étranger, on a des gens qui nous renseignent sur où aller faire ses courses, où chercher un logement, comment faire, etc. Donc si vous avez une communauté qui est bien installée en Algérie, c'est notamment le cas aujourd'hui des gens du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun,
que j'ai oublié. Sénégalais un peu.
Alors il y a très peu de Sénégalais. En Algérie, il y en a très peu. Mais c'est, ou par exemple des gens du Mali, ces gens sont là, ces communautés sont là depuis longtemps, ont créé des liens avec un certain nombre d'Algériens et du coup, il y a des choses qui sont un peu plus simples. Pour certains, pas pour tous. Mm-hmm. Ensuite, il y a des communautés qui sont là depuis pas longtemps, je pense notamment aux Guinéens, qui sont de plus en plus nombreux depuis 2 ans. Et ben, si vous vous baladez dans les périphéries d'Alger, dans les chantiers, ou notamment, je pense à des villes vraiment, qui viennent d'être construites, quoi, à la périphérie sud d'Alger. Il y a quelques mois, on voyait des groupes de Guinéens dormir par terre dans la rue parce qu'ils n'ont pas le réseau nécessaire pour arriver à trouver quelqu'un qui va les héberger.
On les rencontre un peu partout, sous les ponts et tout. Donc vraiment, surtout avec l'hiver actuellement, c'est des conditions très, très délicates.
Oui, alors il faut quand même préciser que ce qu'on voit dans des camps, c'est-à-dire sur des terrains et notamment sous des ponts, avec des tentes et qui vivent en groupe hommes, femmes, enfants, tous ensemble, ce sont pour la plupart des Nigériens. Des gens qui viennent du Niger et qui font partie de ces filières clandestines de mendicité, qui sont des filières organisées et donc tous ces gens viennent d'une même région du Niger et en quelque sorte c'est une sorte de trafic d'êtres humains, c'est-à-dire que ces gens louent leur personne. Donc ils travaillent un certain nombre de semaines ou un certain nombre de mois en Algérie et en échange, leur famille dans leur pays a reçu une somme d'argent. Donc ces gens qui vivent dans les tentes et en groupe comme ça dehors ont un statut particulier. Ce sont des Nigériens qui travaillent dans ces filières clandestines de mendicité parce que la majorité des autres communautés migrantes ne vivent pas dehors en groupe comme ça parce qu'elles savent que ça attire les regards.
Donc ça c'est spécial, ça veut dire beaucoup plus, ça concerne les Nigériens.
Oui.
D'accord. Et justement ça veut dire on constate qu'il y a des familles, des femmes enceintes, des enfants. Les enfants ne sont pas vraiment scolarisés. La question des soins, la question... est-ce qu'il y a vraiment accès à ces services, l'éducation,
les soins ? La loi algérienne et les déclarations des autorités algériennes affirment qu'il est possible pour tout étranger d'avoir accès aux soins gratuits comme tout le monde et pour les enfants en âge d'être scolarisés, d'avoir accès à l'école publique. Ça, c'est ce que disent les responsables algériens. Donc, dans les faits, il y a besoin, les associations certaines font un travail d'accompagnement parce qu'effectivement, ça, c'est la loi et c'est ce que disent les responsables. Mais la personne qui est là le jour où vous vous présentez à l'école ou le jour où vous vous présentez à l'hôpital, elle n'a peut-être pas été sensibilisée à cette question-là. Donc, les associations ont besoin de faire un travail d'accompagnement. Mais la loi et ce que disent les responsables politiques, c'est que l'éducation pour les enfants en âge d'être scolarisés et l'accès à la santé est ouvert à tous. Maintenant, pourquoi est-ce que ces enfants, comme vous dites, ne sont pas scolarisés ? Mais tout simplement parce qu'en fait, ils ont été loués. C'est-à-dire que leur famille a reçu une somme d'argent en échange de leur travail de mendicité. Donc ces enfants doivent mendier parce qu'on a payé quelqu'un pour pouvoir, entre guillemets, emprunter cet enfant et le faire mendier et que l'argent revienne à la filière clandestine de mendicité. C'est aussi la raison pour laquelle un certain nombre de personnes disent « Mais je ne comprends pas, je suis allée voir ces gens qui mendiaient, je leur ai proposé un travail, ils ne veulent pas travailler. » Mais parce qu'en fait, ils doivent rembourser l'argent que la filière a donné à leur famille dans leur pays. Et il ne faut pas prendre ce refus de travailler pour un... pour de la paresse ou pour de l'envie d'escroquer les gens. C'est juste qu'ils ont déjà un travail, en quelque sorte. Et ce travail, c'est ce travail de mendicité.
Voilà. Donc, je pense que c'est une question c'est très sensible qui mérite d'être, qu'il y ait une enquête sur le terrain, voir des gens qui utilisent ces populations vulnérables. Ils sont là, parce qu'ils fouillent une situation. Donc, quand ils arrivent en Algérie, c'est pas bon de les utiliser pour gagner de l'argent.
La problématique étant que ces personnes viennent d'une région au Niger qui a énormément souffert de la sécheresse et dans laquelle il y a très peu d'opportunités d'emploi, très peu de développement. Et même si on arrive, comme l'Algérie le fait en ce moment, à prendre ces gens, à les rapatrier dans leur pays, il y aura continuellement des gens qui vont venir, tant que leur propre région ne leur offrira pas des opportunités de développement. Parce que pour qu'une mère laisse partir son enfant de 6 ans pour qu'il aille mendier dans un pays différent, c'est bien qu'elle n'a pas vraiment d'autre solution pour vivre. Je veux dire, toute mère réfléchit à deux fois avant d'envoyer son fils. Oui. Parce que les familles que vous voyez mendier dans la rue ne sont pas forcément des familles de sang. C'est-à-dire que ce qu'on vous présente comme étant la mère et les enfants, ce n'est peut-être pas les enfants de cette femme. Ce sont peut-être des enfants qui ont tout simplement été loués par leurs parents qui, eux, sont restés dans la région de Zinder au Niger.
Parlons un peu des raisons qui poussent ces gens-là à quitter leur pays. Donc, il y a des raisons politiques, économiques, climatiques. Donc,
alors, si on met de côté la question des gens qui viennent du Niger,
oui.
Pour les autres, il y a effectivement des gens qui fuient des guerres ou des conflits ou des persécutions politiques, mais ces gens-là sont minoritaires. Mais il y en a.
Généralement.
Alors, bon, il y a le Congo, la République démocratique du Congo. Il y a eu à un moment la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est moins pour des raisons de conflit, mais quand même. Le Libéria, le Nigeria. Après, il y a quelques personnes de Centrafrique qui sont arrivées jusqu'en Algérie aussi. Ça, c'est pour les gens qui sont venus pour des raisons pour les conflits, mais ce sont vraiment des gens minoritaires. Il y a une majorité de personnes qui viennent parce qu'elles veulent soit avoir l'opportunité d'évoluer socialement, c'est-à-dire qu'en fait, dans leur pays, l'univers est un peu bouché et elles se disent que elles n'arriveront pas à s'élever socialement, à améliorer leurs conditions de vie. Et donc, du coup, elles partent pour ça. Et il y a un certain nombre de gens qui estiment que leur revenu ou que ce qu'on leur offre comme perspective de vie n'est pas acceptable. Et ça n'a rien à voir avec avec l'argent. Il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, parce qu'ils veulent avoir un salaire pour nourrir une famille. Et puis il y a des gens qui partent tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont envie de, je sais pas, d'aller dans un pays où on peut aller au cinéma, où on peut aller, je sais pas, voir des spectacles, aller se balader dans les centres commerciaux, etc. Mmh. Et que ça, on ne l'offre pas dans leur pays. Et ils considèrent qu'ils ont envie d'y avoir accès aussi.
D'accord. Donc, quand même, ça veut dire que ces gens-là, s'ils quittent le pays parce qu'il n'y a pas des conditions favorables dans leur pays, soit sur le plan politique, économique, même...
Absolument. Et pour vous dire que je viens de passer plusieurs jours à travailler sur les raisons qui poussent les Algériens
à quitter le
pays de façon... c'est-à-dire sans visa ou par bateau ou par avion, mais en tout cas pas de façon organisée et régulière. Et je trouve quand même que les arguments sont vraiment, vraiment similaires. On entend la même chose, des Algériens qui expliquent pourquoi ils veulent partir en prenant un bateau et des migrants qui sont arrivés en Algérie qui expliquent pourquoi ils ont quitté leur pays.
Mais toujours les conditions qui poussent les gens à quitter leur pays, c'est de chercher le mieux, ça veut dire un avenir prospère, des conditions de plus en plus favorables. Derrière moi, il y a des événements. L'Algérie, il a vécu, ça veut dire en Algérie, on a vécu des scènes de violence entre les migrants, les Algériens. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'on peut parler réellement qu'il y a un problème de racisme envers cette population subsaharienne?
Il y a un problème d'incompréhension. Il y a un problème d'incompréhension d'abord de méconnaissance, parce que la plupart des gens pensent que les migrants viennent du Mali et du Niger. Après, il y a évidemment des gens qui ont côtoyé certains migrants, qui ont travaillé avec eux, qui sont allés avec des étudiants étrangers à l'université, donc qui ont été sensibilisés à toutes ces questions-là. Mais les migrants qui sont présents en Algérie, d'abord, sont d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Quels sont les pays? Les gens le savent peu. Pourquoi ces gens sont venus? Les gens le savent peu. Les contacts, les vrais contacts,
disons, au-delà. Donc il y a un travail d'information et de communication.
Oui, d'information et de communication, mais dans les deux sens. Hein, parce que c'est vrai que, étant donné les difficultés des uns et des autres, c'est un peu compliqué de commencer une discussion de façon apaisé et puis sans être pressé et en ayant le temps de découvrir l'autre. Voilà. Il y a besoin, je pense, d'un travail de médiation dans le sens où il faut qu'il y ait des gens qui puissent aider les uns et les autres à discuter ensemble pour mieux se découvrir et mieux comprendre pourquoi les uns et les autres sont là.
Ça, c'est pas un travail des pouvoirs publics et des associations et pourquoi pas aussi des partis politiques?
Je pense que c'est un travail de tout le monde.
Voilà, mais beaucoup plus des structures. En premier lieu, l'État qui a signé des conventions internationales qui un peu d'accompagner, de donner une image à l'immigration d'une manière générale.
Après, quand un pays donne des droits comme ça à des étrangers sur son territoire, c'est déjà une chose qui est intéressante. Le fait que les migrants aient le droit à la santé et que les enfants aient le droit à l'école, c'est une chose qui est intéressante. Mais là où il y a un besoin de travail de la part des associations, de la société civile, de je ne sais pas qui, de faire ce travail de médiation, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce travail de médiation, il est urgent. Que les violences qui ont eu lieu l'année dernière, en 2016, dans plusieurs villes du pays, montrent que ce travail de médiation est très urgent, sinon on va vers plus de violences. Et à un moment, il faut arrêter de se dire de qui est responsable et qui doit faire, il faut faire soi-même. Et je pense que tout citoyen ou toute personne qui se sent concernée par cette question doit, au quotidien, ça passe par quoi? Ça passe par ne pas insulter quelqu'un parce qu'il est noir. Ou quand on entend quelqu'un insulter quelqu'un parce qu'il est noir, lui dire, écoute, peut-être que c'est quelqu'un de mauvais, si tu le connais, il t'a fait quelque chose de mal, tu peux l'insulter pour ça, mais pour la couleur de sa peau, faut peut-être pas le faire. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant, mais qui est très compliqué, étant donné les conditions aujourd'hui, c'est de créer des endroits où étrangers et Algériens peuvent se rencontrer. Ça permet la discussion et ça permet de se rendre compte que l'autre, dans un sens ou dans un autre, que l'autre n'est pas un ennemi et qu'au contraire, on a plein de points en commun. Et qu'on peut discuter de beaucoup de choses.
Et que de dire que l'immigration et les migrants peuvent être aussi un facteur d'intégration, de développement même local, donc ils peuvent contribuer.
En parlant de facteurs de développement local, il faut quand même comprendre que dans aujourd'hui énormément de chantiers de bâtiments publics et de chantiers de logements notamment, ce sont des migrants qui sont les manœuvres. Donc, il faut se demander, toutes les personnes qui ont postulé à l'ADL 2013 à Alger, dans la région d'Alger, il faut qu'elles sachent, ces personnes, que les gens qui ont tourné le ciment pour pouvoir construire ce sont des migrants. Alors, la question de la politique et du choix politique du pays est un autre choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte ou pas l'entrée d'étrangers sans papiers sur son territoire? Ça, c'est une chose différente. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont là,
ils sont là, donc
qui travaillent, ils travaillent et qui ont travaillé pour la construction qui ont participé à la construction de ce qui va permettre à des Algériens de vivre dans des conditions dignes. Donc, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de donner de la dignité à ces gens. Je ne parle pas de régularisation, ça c'est un choix politique. Et ça c'est aux partis politiques, aux gens qui sont au gouvernement de faire ces choix-là, c'est pas à moi. En revanche, quand un homme sans papier et donc précaire passe 6 mois à travailler dans un chantier d'ADL et que ensuite il se fait tabasser dans la rue et voler son téléphone portable juste parce qu'on sait que comme il a pas de papier, il pourra pas aller porter plainte. C'est un peu gênant.
Oui, effectivement. Donc le fait qu'ils sont là, donc il faut traiter la question d'une manière objective, que c'est des humains, ils sont là, donc il faut les accompagner, les assister et pour qu'ils puissent vivre en dignité comme vous venez de dire. En tant que journaliste aussi, quand même on l'a constaté, on lit souvent des articles, des contributions des journalistes qui donnent une mauvaise image des migrants, de dire voilà qui représentent, qui ramènent avec eux des fléaux ainsi de suite. Donc, ils utilisent des propos vraiment haineux. Donc, comment vous expliquez ces déclarations de la part de certains journalistes?
Je pense que c'est un manque de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, il y a des experts algériens en termes de santé qui travaillent notamment sur la propagation des épidémies qui vous disent que c'est pas l'immigration qui va changer quelque chose à une épidémie de VIH-SIDA ou c'est pas l'immigration qui change quelque chose au problème de santé publique. C'est un manque de connaissances. C'est-à-dire qu'on reprend ce qui se dit dans la rue ou ce qui s'est dit dans un café ou ce qu'on a entendu par un voisin, mais on n'a pas posé la question au médecin.
Alors que les journalistes doivent logiquement trouver une bonne information, juste, et la traiter d'une manière objective, de chercher les raisons déjà de leur immigration, les conditions de leur vie, leurs droits et tout.
Disons que la base de notre métier, ça doit être de donner les faits. Après, chacun fait comme il veut, mais la base de notre métier, ce sont les faits.
Ça reflète peut-être la corporation d'une manière générale des médias.
Alors, je pense qu'il ne faut pas, faire une généralité à partir de plusieurs unes de médias qui ont été haineuses et qui ont été des appels à la violence. Je pense que de manière générale, il y a une espèce de certains médias pêchent un peu par méconnaissance et par naïveté, tout simplement.
Donc ça nécessite un travail de formation et d'accompagnement des journalistes.
Qui existe. Il y a des associations, des gens qui ont fait de la formation et des ONG d'ailleurs, j'y pense, qui font de la formation sur comment les journalistes peuvent traiter les questions de différence, quelles que soient les différences, de façon apaisée.
Voilà, donc une autre question. Donc apparemment, vous préparez un film documentaire sur les migrants. Donc parlez-nous un peu de ce film documentaire.
C'est un film documentaire qu'on a tourné dans un lieu de vie où vivaient des migrants de pays francophones et anglophones. Donc on a tourné pendant un an, pas un an d'affilée, hein, mais on y est allé plusieurs fois pendant des courtes périodes tout au long d'une année. Et on a remporté pour ça une bourse des rencontres cinématographiques de Béjaïa pour pouvoir financer le montage et la post-production du film. Donc aujourd'hui, on est en post-production. Et on espère que d'ici la fin de l'année 2018, on aura un film à montrer. Ce qui nous a vraiment motivés, c'est qu'on avait envie de raconter des histoires sans avoir le prisme journalistique. Parce que quand un prisme journalistique, on en parlait tout à l'heure, il faut un fait, il faut une actualité, il faut quelque chose de nouveau, etc. Bon. Nous, on avait juste envie de parler des gens qu'on rencontrait. Parce qu'on a rencontré des personnes extraordinaires avec qui aujourd'hui on est amis. On avait envie de raconter les choses sans avoir cette barrière de statut administratif qui était que cette personne était un migrant. Bah non, en fait, cette personne, elle a un prénom. C'est un homme avec des enfants, ou une femme avec une petite fille, ou un jeune qui veut réussir dans la vie. Et en fait, comme moi le matin, ou comme vous le matin, ou comme les auditeurs le matin, ils se demandent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à manger le soir, donc comment on va faire les courses. Ils aimeraient que leurs enfants réussissent à l'école, donc il faut les aider pour les devoirs. Ils s'inquiètent de savoir s'ils auront assez d'argent à la fin du mois, etc. C'était ça qu'on voulait montrer. Donc en gros, c'est un peu une plongée dans la vie quotidienne de trois personnes qui vivent dans un bâtiment où les conditions de vie sont assez précaires, mais qui ont une vie quotidienne qui ressemble beaucoup à la nôtre, hormis les conditions précaires et les conditions administratives. Et puis un jour, cette maison est attaquée par les voisins. Et là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça le film.
Oui, donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question, ça donne un peu de suspense. Donc on va attendre le film d'ici la fin de l'année 2018.
D'ici la fin de l'année 2018.
Voilà, donc on aimerait bien en discuter encore, mais on est arrivé à la fin de cette émission. Un message à transmettre à l'occasion de la journée du 18 décembre à la population, aux citoyens, aux journalistes, aux associations, à qui vous...
Oui, un message à transmettre, oui. Un migrant, en fait, c'est une personne qui se déplace. Ça veut pas dire autre chose. Et on a changé le sens de ce mot. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on lui a donné un sens politique, un sens qui fait peur, etc. Mais un migrant, c'est quelqu'un qui se déplace. On est tous des migrants. On est tous venus de quelque part. On est allés ailleurs. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie sur la planète entre les humains pour savoir qui a le droit de voyager et qui n'a pas le droit.
Merci Leïla Beratou d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, la liberté de circulation des personnes est l'un des droits consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que tous les pays ont ratifié, dont l'Algérie. Donc effectivement, on doit militer pour le respect, la dignité des migrants et la dignité de l'être humain d'une manière générale. Auditeurs et auditrices de la Web Radio du Rage, merci et on vous donne rendez-vous avec une autre émission.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.